Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu.
Eh bien, bienvenue à cette nouvelle réu de rédaction qui a pour ordre du jour le bonbon rose de l'été, à savoir bien évidemment Barbie, parce que ça y est, le film tant attendu de Greta Gerwig est enfin sorti, qui plus est en face du fameux Oppenheimer de Christopher Nolan. Et si j'ai fait appel à vous aujourd'hui, c'est justement parce qu'on, comme d'habitude, j'ai envie de dire, on n'est pas d'accord sur Barbie, et ça va justement permettre de débattre pour dégager des angles autour du film et faire plein de super articles. Je vais d'abord me tourner vers toi, Déborah. Qu'est-ce que tu as pensé de Barbie ?
C'est un des films, si ce n'est le film que j'attendais le plus cette année. Et je n'ai pas trouvé tout ce que je voulais y trouver, mais ce n'est pas non plus une déception. Déjà, bon, évidemment, le point le plus évident, la direction artistique est absolument dingue, je trouve. L'univers de Barbie, toute son iconographie est merveilleusement respectée. Sur le discours féministe, bon, on en a beaucoup reparlé depuis. Je pense réellement que la démarche est sincère et honnête, ne serait-ce que parce que bah, c'est Greta Gerwig à la réalisation et Margot Robbie à la production. Après, ça n'empêche pas le film... d'accuser quand même des déséquilibres et une certaine maladresse sur son propos. Mais je trouve quand même intéressant de confronter l'idée à l'origine de Barbie et ce que ça en est devenu avec sa commercialisation, même si sur toute la critique anticonsumérisme, capitalisme, Mattel c'est les méchants, bah au final le film se vautre et se contente de quelques blagues que je trouve pour le coup assez hypocrites, là où je trouve pas forcément le message féministe hypocrite, je le trouve même plutôt réussi. Sauf quand c'est pour parler de body positivisme, là c'est n'importe quoi.
Et de l'autre côté du spectre, on a bien évidemment Judith.
Ouais, alors moi pour le coup, c'est vrai que ça a été une terrible déception ce film. Pourtant, je l'attendais pas tellement pour le coup, mais c'est vrai que j'avais fini par être hypée par toutes les références que Greta Gerwig mettait en avant dans les interviews, par le fait que j'avais assez envie de voir Ryan Gosling en Ken, bien sûr, par plein de choses qui avaient fini par me donner envie. Puis au départ, c'est vrai que Barbie, ça m'évoquait rien de féministe, moi au contraire. Et finalement, je trouvais ça hyper intéressant qu'on mette en avant une relecture féministe de la chose. Donc j'ai fini par avoir envie et j'ai été extrêmement déçue parce que voilà, je trouve que c'est un formidable numéro d'hypocrisie et que le film lui-même rabâche en long et en large en travers un discours féministe hyper scolaire mais ne le met jamais en œuvre et que la structure même du film ne réussit absolument pas à dépasser les standards sexistes hollywoodiens habituels. C'est très dommage et évidemment surtout l'aspect capitaliste, consumérisme, etc. Je trouve aussi que le film n'ose toucher à rien finalement et qu'il assume pas du tout sa portée ni féministe ni quoi que ce soit. Donc voilà, vraiment un faux parti pris qui m'a beaucoup, beaucoup déçu.
Et toi, Antoine ?
Bah, moi, pour le coup, je pense que je suis peut-être d'ailleurs le plus positif dans la rédaction sur le film. Moi, déjà, c'est vrai que bah, comme toi, Déborah, sur le côté la direction artistique, l'enchantement des premiers instants et l'aspect comédie, moi, j'ai vraiment passé un super moment et je trouve le film très drôle et souvent très efficace. Mais surtout, moi, il y avait un piège que je redoutais de la part du film et que je trouve qu'il a plutôt bien esquivé. C'est justement son honnêteté par rapport à ce qu'est la contradiction même du projet. C'est-à-dire que oui, évidemment que c'est une pub pour Mattel, ça peut pas éviter de l'être. Et en même temps, derrière ça, je trouve qu'il y a une vraie question sur c'est quoi Barbie en tant que symbole. Et oui, c'est à la fois un symbole qu'on peut percevoir comme féministe par rapport à ce que la poupée a représenté dans le monde des poupées, en permettant aux femmes de potentiellement fantasmer une vie de femme autonome par rapport à ce qu'étaient les poupons que justement les petites filles étaient obligées d'avoir avant. Et en même temps, de ne d'être conscient que derrière ça, il y a une grosse hypocrisie, évidemment, marketing, et que d'ailleurs, si Barbie devient aujourd'hui quelque peu féministe, c'est parce que ça arrange bien Mattel, qui doit bien vendre des jouets derrière. Et je trouve que là où Greta Gerwig en tire quelque chose d'intéressant, c'est avec ce personnage malheureusement assez peu travaillé de cette mère de famille un peu désœuvrée qui se redécouvre un peu à travers Barbie, c'est qu'une marque, dans tous les cas, ne portera jamais un vrai propos progressiste et que ça sera toujours un outil marketing et que, en fait... Néanmoins, ça peut avoir une valeur quand même. C'est juste qu'il faut que l'individu se réapproprie l'idée et se réapproprie la marque pour en faire quelque chose qui est sien. Et en fait, c'est tout le parcours de Margot Robbie que je trouve assez intéressant dans le film. C'est du coup de se rendre compte qu'elle-même doit sortir du modèle même de ce qu'est Barbie, et Ken aussi d'ailleurs au demeurant, pour de vraiment devenir une individu et du coup devenir une femme et non pas l'idée de la femme.
Non, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez fascinant. Au final, qu'on soit d'accord ou pas avec le film sur son propos féministe et tout ça, qu'on l'aime ou pas, c'est quand même assez drôle de voir que le film est plein de paradoxes et de contradictions, là où on nous explique que l'histoire de Barbie elle-même est pleine de paradoxes et de contradictions sur les injonctions qu'elle a voulu exploser sur la maternité et au final les autres injonctions à la beauté et à la perfection qu'elle a engendrées. Donc c'est ce double discours, qu'il soit conscient ou non, que je trouve vraiment intéressant dans le film à décortiquer et à analyser.
Merci. Niveau-là, moi je trouve que le film fait justement assez preuve d'une assez grande lâcheté. En tout cas, moi je trouve que, tu le disais d'ailleurs, on en parlait, Déborah, qu'il y a un aveu d'échec à un moment donné de la part du film.
Ça, oui.
Parce qu'il y a la voix off qui dit que, en fait, si on veut faire passer un message sur l'acceptation de la différence des physiques, c'est pas Margot Robbie qu'il faut caster. Il y a vraiment la voix off qui dit ça, qui s'adresse à la Warner et qui dit ça. Donc évidemment, si t'en viens à devoir briser le quatrième mur et mettre une voix off qui dit ça, c'est qu'à un moment donné, t'as raté quelque chose et que tu le dis. Et en fait, moi j'arrive pas à me remettre qu'ils aient pas fait le choix de raconter l'histoire d'une femme dans la vraie vie qui serait tout sauf Margot Robbie, qui serait éventuellement une femme de couleur, une femme grosse, une femme handicapée ou je sais pas, et qui en fait aurait fait de grandes choses, qui aurait conduit Mattel à en tirer une Barbie, comme ça arrive, et en fait cette nouvelle Barbie qui est différente de la Barbie stéréotypée arriverait dans le monde des Barbies et là du coup changerait les choses dans un monde de Margot Robbie, et du coup voir comment ces changements dans le monde de Barbie influeraient positivement sur les petites filles. J'aurais trouvé ça tellement plus logique et en accord avec le message du film.
Et quand tu sais que normalement, quand le projet était encore chez un autre studio en développement, que c'était Amy Schumer qui avait été castée pour jouer Barbie, au moment où son physique entrait totalement en contradiction avec les normes physiques véhiculées par Barbie, je trouve ça quand même assez drôle qu'au final, le film ait ce progressisme affiché, mais qu'effectivement, il aille caster une actrice qui est très belle, même si... D'un autre côté, bon, déjà, on peut pas reprocher à Margot Robbie d'être belle, on peut pas lui reprocher d'être sexy et blonde aux yeux bleus, hein, elle est comme ça. Mais c'est vrai que c'est drôle ce double parallèle, même si c'est vrai qu'au final, Barbie qui essaie un petit peu de craquer son vernis et défriser sa perruque blonde, comme j'ai dit dans mon portrait, c'est, comme tu dis Antoine, très intéressant par rapport à Margot Robbie et elle, qui elle est et qui elle veut être dans l'industrie.
Bah c'est ça, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi ce truc, finalement, à partir du moment où elle a été impliquée dans le projet, ça a amené quelque chose d'assez intéressant parce que ça a posé une question même sur l'idée de Barbie, puisque Margot Robbie est finalement déjà un peu cette nouvelle star d'Hollywood qui émerge, et pour beaucoup grâce ou à cause de sa beauté, et moins pour ses talents d'actrice qui pourtant sont présents. Et du coup, elle a ce truc de bimbo, mais qui est tellement rattaché à ça que t'as l'impression qu'elle combat en permanence pour prouver qu'elle est plus que ça. Et moi, ce qui m'intéresse dans Barbie, du coup, c'est que finalement, moi, j'y vois une forme de cheval de Troie du film, qui d'ailleurs passe très bien par cette première partie qui était celle qui avait été beaucoup teasée par la promotion de cette recréation en réel, justement des maisons de rêve, de ce côté extrêmement plastique quelque part entre Jacques Tati et Jacques Demy, là, qui était assez fantasmatique et qui forcément est très plaisant à regarder d'ailleurs, et dans lequel d'ailleurs elle a totalement sa place de poupée, elle représente totalement ça, mais et où j'ai l'impression finalement que ça développe pas mal les enjeux de sa carrière. De cette femme qui, derrière cette beauté, a besoin finalement a besoin de jouer de ça pour cacher autre chose, et notamment peut-être quelque chose de plus subversif, d'un peu plus rebelle, voire de plus féministe. Mais c'est peut-être du coup ça qui est intéressant, c'est que finalement, en parlant de Barbie, le plus intéressant est peut-être de parler de Margot Robbie et de l'état de sa carrière, qui est assez particulière à Hollywood aujourd'hui. Et Barbie, en plus, représente vraiment un moment charnière dans sa carrière qui va être très intéressant à analyser.
Oui, moi, c'est vrai que je sais qu'on parle beaucoup de sa plastique qui est impressionnante, etc. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est vraiment une actrice qui est bonne, mais comme il en existe plein. Moi, je trouve que c'est vraiment une actrice qui est douée comme il en existe plein. Pardon.
Donc, une actrice bonne. Vas-y, continue.
Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une actrice douée, mais comme il en existe plein. Et en termes de physique, tu vois, je trouve qu'elle a effectivement un physique extrêmement générique et qui m'évoque, moi, pas grand-chose. Et en fait, tu vois, au début, quand les premiers films que j'ai vus avec elle, j'ai un peu du mal à retenir sa tête parce qu'en fait, elle ressemble à énormément de starlet blonde.
Elle est générique comme Margot Robbie,
ouais,
quand
moi
même.
Aussi beaucoup.
Non, mais je veux dire, ah ouais, je sais pas, moi, je lui trouve pas un visage très spécial. Je trouve qu'elle a aucun trait qui dépasse, tu vois, genre tout est parfait, mais rien n'est spécial. Enfin, moi, c'est un peu l'impression qu'elle me fait. Et du coup, je la trouve relativement entre guillemets transparente, mais ce qui est intéressant, c'est mais comme une Barbie, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est justement les rôles qu'elle va chercher où va y avoir parfois de la transformation physique, où va y avoir de la rugosité. Alors c'est en général pas toujours ses plus gros succès ou en tout cas les films qui l'ont fait la plus connaître, mais on sent vraiment qu'elle essaye de rajouter des choses par-dessus son modèle relativement générique de Barbie justement.
Mais ça c'est depuis le début de sa carrière, avant même qu'elle perce à Hollywood.
Bah oui, moi en fait pour rebondir sur ce que tu dis, Judith, je pense qu'il y a vraiment de ça dans ses premiers rôles et notamment dans son premier rôle, celui qui l'a fait connaître, donc le soap opéra méga populaire Neighbours, puisqu'elle est d'origine australienne, donc elle a tourné dans le soap opéra australien par excellence, qui s'est d'ailleurs méga exporté, qui s'est terminé l'année dernière en fanfare et avec un record de spectateurs, et vraiment c'est un truc super populaire. Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'il faut quand même souligner que Neighbours, c'est vraiment le soap opéra qui a fait émerger plein de stars australiennes, de Russell Crowe à Kylie Minogue, en passant par Guy Pearce et la fratrie Hemsworth, donc Chris, Liam et Luke, donc vraiment tout le monde y est passé. Et à la base, ce qui est d'ailleurs assez rigolo, c'est qu'elle s'est faite caster parce qu'elle a un peu forcé et elle n'avait pas du tout fait d'école d'acting ni rien, et c'est vraiment parce qu'elle a réussi à choper finalement le contact d'une directrice de casting et elle a passé des castings pour avoir un petit rôle de guest ou à jouer la groupie d'un rocker trop populaire dans la série. Et finalement, en fait, ils l'ont tellement kiffé à la base comme personnage un peu chelou que finalement ils l'ont amené dans la série et ils ont vachement développé son personnage pour qu'elle devienne acceptée dans le quartier où se déroule le truc.
Ouais, parce qu'au final, son contrat a été allongé de 3 ans, elle a fait plus de 300 épisodes et c'est à tel point que les producteurs ne voulaient pas qu'elle parte à Hollywood. Quand son contrat est arrivé à terme, elle s'est dit bon, bah ok, maintenant j'ai percé en Australie, mais j'ai envie de viser un peu plus loin. Ça fait partie un peu de son culot et de la confiance qu'elle a en elle, que je trouve vraiment très inspirante. Et les producteurs, eux, se sont dit « Ah bon, mais t'es sûre, tu veux pas rester et tout, t'es un peu une caution dans notre émission. » Et elle a dit « Non, non, je veux partir et puis j'aimerais bien que mon personnage, il ait une mort ultra spectaculaire, que vraiment on s'en souvienne. » Et les producteurs, eux, ils étaient plutôt en mode « Ben non, en fait, on va juste faire partir ton personnage, comme ça, si jamais pour toi, ça se passe pas bien aux États-Unis, bah tu peux rentrer à la maison et revenir jouer pour nous. » Et elle s'est dit « Ouais, c'est sympa, mais... j'ai pas l'intention de revenir en fait. »
Mais elle est même encore plus motivée à se dire « En fait, je veux pas revenir. » Elle le formule jamais comme ça, mais tu sens que c'est un peu le truc « Je veux pas pourrir dans cette série à tout jamais. »
Ça aurait été un aveu d'échec de revenir à cette série, sauf pour revenir pour le dernier épisode, il me semble,
ouais,
où ils font un peu revenir tous.
C'est un peu terrible parce qu'en fait, je pense qu'ils ont dû tourner ça pas très loin après le Covid ou un truc comme ça, et notamment tous les acteurs un peu populaires qui ont fait leur vie ailleurs. Du coup, le dernier épisode, c'est genre tous les personnages se retrouvent dans une des baraques et ils mettent une méga télé où ils font venir tout le monde par Zoom. Et donc vraiment, elle arrive, mais tu sais qu'elle a tourné ça chez elle dans son bureau, quoi. C'est vraiment, elle arrive deux secondes et elle fait... Ah, et en fait, t'as un truc méta où elle dit ma vie dans le quartier a été vraiment super et c'est parmi les plus beaux souvenirs de ma vie, tu vois. Donc, il y a un truc où c'est plus les acteurs qui parlent d'ailleurs que leurs personnages. Mais en soi, ce qui est d'ailleurs assez génial, c'est que par rapport, tu vois, à cette idée qu'elle voulait une mort méga dramatique, ce qui est assez rigolo, c'est que d'habitude, dans ce genre de soap opéra là, tu prends ton chèque et t'acceptes un peu que t'enchaînes les rôles et t'acceptes surtout ce que le soap va te balancer à la tronche dans un point de vue retournement scénaristique. Et... parce qu'elle, elle a quand même un truc, donc elle interprète Donna. Qui, une fois qu'elle est acceptée dans le quartier, il lui arrive plein de trucs incroyables, donc notamment elle vit avec son père et un jour elle renverse, je crois, quelqu'un en bagnole, donc du coup son père prend la faute à sa place, du coup il fuit parce qu'il veut pas se retrouver en taule à cause d'elle, et plus tard elle découvre qu'en fait son père n'est pas son père biologique, donc elle se retrouve à vivre avec d'autres gens dans le quartier. Et puis au bout des 3 ans quand même, tu vois, à peine où elle a été dans la série, elle avait quand même rencontré un gars, elle se marie avec le mec, il meurt un mois plus tard dans la série, et du coup elle pète un câble et a fini par partir pour étudier le design aux États-Unis. Voilà.
Donc, t'as quand même l'air très très excitée en parlant de cette série.
C'est
mon nouveau Emily in Paris.
Non mais tu vois, je trouve ça assez dingue. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que bon, c'est le côté méga ridicule des soaps, mais elle, tu vois, ce qu'elle aimait bien, c'est que justement, c'était pas la fille méga lisse, tu vois. Elle a un peu des casseroles au cul, justement. Elle commence comme groupie un peu stalkeuse, un peu bizarre. Et en fait, petit à petit, il lui apporte plein de trucs, mais elle tenait, malgré le classement de la série, à ce qu'il y ait plein de choses plus dramatiques encore qui arrivent à son personnage pour qu'elle ait des trucs à jouer. Et notamment, elle voulait qu'elle soit addict et qu'il l'emmène en désintox et tout ça. Et les producteurs ont dit non, c'est mort, on fait pas des trucs comme ça. Mais tu vois, je trouve marrant parce que déjà.
On tue des gens, mais on fait pas
ouais, tu vois, c'est ça. Mais je trouve ça marrant parce que ça amène, tu vois, déjà ce truc-là où tu sens qu'elle cherche déjà un peu, dès le tout début de sa carrière, à faire parasiter un truc. Et ce qui est marrant aussi, c'est que, bah, pour J'ai pas tout regardé de Neighbors, hein, évidemment.
Pour l'instant.
Pour l'instant. Mais quand tu regardes les extraits où elle est là, c'est quand même évident. Et je pense que pour pas mal de soaps de cette période-là, où il y a des acteurs qui en ont émergé, c'est, ça se voit direct, en fait. C'est, tu vois quand il y a quelqu'un qui se démarque au niveau de son jeu. Et elle, c'est le cas, en fait. Enfin, tu sens que quand elle doit pleurer, quand elle doit être heureuse, enfin, tu sens vraiment qu'elle n'est pas dans le même registre que ses camarades de jeu. Et ça amène ce truc de te dire... tu sais qu'elle va pas rester là longtemps, en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que beaucoup des acteurs qui ont été dans Neighbors et qui ont été repérés ont tout de suite décollé pour faire autre chose après. Et c'est exactement elle ce qui lui est arrivé.
Ah oui, c'est ça, parce qu'au final, elle est partie donc d'Australie pour aller aux États-Unis. Bon, il me semble qu'elle a joué dans une série, non ? Pan Am.
Ouais, Pan Am, mais ça a eu une saison, ouais, elle a voilà. joué une hôtesse de l'air et puis ça a été annulé très très vite après.
Et puis directement après, bah, t'es repéré par Martin Scorsese quand même. Voilà. C'est pas rien.
Le Loup de Wall Street en 2013. Et là, quand même, ça change sa vie parce qu'elle a à peine 22 ans quand elle tourne le film. Donc le personnage de Naomi, donc la femme du personnage de Jordan Belfort, interprété par Leonardo DiCaprio. Et ce qui est quand même dingue, c'est que t'es donc chez l'un des plus grands cinéastes américains en activité. T'es face à l'un des plus grands acteurs américains en activité. Et pour autant, elle sort un peu de nulle part, à part pour les Australiens. Et pour autant, elle démérite pas du tout dans ce rôle-là, surtout dans un film qui est dans une forme d'hystérie permanente et de gradation permanente dans la folie, et où t'as des longues scènes de dialogue un peu compliquées à tourner, et elle est toujours là... et elle impressionne par son assurance face à DiCaprio.
Bah, son assurance par rapport à DiCaprio, je pense qu'il faut revenir sur cette anecdote de comment elle a décroché le rôle. Genre, elle a un peu passé l'audition sans trop savoir, en mode allez, pourquoi pas, sachant qu'elle voulait même pas faire de scène de nu de base. Et donc voilà, elle passe l'audition, elle passait probablement après je ne sais pas combien de dizaines et de dizaines d'actrices, vu que Scorsese lui avait en tête de prendre une actrice qui n'était vraiment pas connue pour pouvoir jouer le contrepoids avec Leonardo DiCaprio. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à un moment où son personnage s'engueule avec son mari et où elle était censée l'embrasser, au lieu de l'embrasser, elle lui a foutu une gifle. Et à ce moment-là, elle raconte qu'il y a eu un peu un moment de flottement et de silence sur le plateau, mais que Martin Scorsese, lui, a trouvé ça génial, que Leonardo DiCaprio aussi était sûrement très surpris de se recevoir une rousse comme ça, mais après, il était en mode « Eh, mais c'est bien là ce que tu viens de faire, vas-y, recommence !» Et que c'est comme ça que cette relation aussi est née.
Je vois le visage de Judith.
Ah, j'aimerais tellement mettre des claques à Leonardo DiCaprio.
Il a accepté parce qu'elle avait moins de 25 ans, donc je pense que c'est pour ça que ça passe.
Aujourd'hui, ça passerait moins. Mais bon, voilà, donc déjà, cette assurance, voilà, comme tu dis, moi je parle aussi un petit peu de culot, parce que je trouve qu'elle en a, que c'est vraiment un mélange entre culot et talent qui l'a emmené là où elle est aujourd'hui.
Bah, moi, c'est, tu vois, le truc, moi, en revoyant des scènes du Loup de Wall Street, c'est notamment une des scènes qui, moi, m'amuse le plus dans le film, celle où elle s'engueule vraiment, enfin, elle sort du côté, justement, bimbo très aimante, et tu sens que là c'est le moment où le mariage commence déjà à capoter, et donc elle découvre potentiellement qu'il la trompe à ce moment-là, et elle lui jette des verres d'eau à la gueule alors que lui est encore au lit. Et ce que je trouve dément, c'est que à ce moment-là tu te dirais DiCaprio mène la danse sur ce genre de séquence-là, et en fait pas du tout, c'est vraiment elle qui mène le tempo de la scène et qui a vraiment l'ascendance sur lui. Et même si lui il se démène parce qu'il pète des câbles à chaque fois qu'elle lui jette un verre d'eau, il se met à gueuler et à devenir tout rouge, mais c'est vraiment elle qui impressionne plus que lui dans cette séquence-là. Et il y a pas mal de passages dans le film où en fait tu te dis mais c'est pas juste par sa plastique justement qu'elle impressionne.
Et pourtant, voilà, toutes ces scènes de nu, bon, elles ont été très 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 commentées. On en a beaucoup parlé, bah, déjà parce qu'elle était très jeune. Mais c'était pas non plus de l'exploitation de sa plastique. C'est-à-dire que Martin Scorsese lui a proposé d'atténuer un petit peu les scènes. Par exemple, la scène où elle apparaît dans ce nu intégral. Par exemple, de mettre un petit peignoir un peu léger pour qu'elle se sente plus à l'aise. Et elle, même si sur le coup, elle était très très stressée à l'idée de tourner ces scènes, elle avait quand même envie de tourner en nu. Tout simplement parce qu'elle comprenait que c'était essentiel à la caractérisation de son personnage, qui est un personnage qu'on te décrit dans le scénario texto comme la blonde la plus sexy de tous les temps. Et qui n'a véritablement que son physique pour exister. Et elle dit quelque chose que je trouvais très juste, mais c'était qu'à partir du moment où elle se montre nue devant la caméra, c'est parce qu'elle joue toutes ses cartes, elle met toutes ses cartes sur la table, et en fait elle n'a que ça. Et c'est pas du tout dans une forme réductrice pour le personnage, au contraire, c'est dans quelque chose qui va plus toucher vers le pathétique, le pathétique de ce personnage en fait, qui est enfermé dans cette plastique, et que je trouve vraiment génial parce que ça contraste avec les autres scènes du film où on tombe dans une énergie beaucoup plus chaotique avec la fameuse scène où elle lui demande le divorce.
C'est vraiment pas facile en plus, je pense, pour une jeune femme comme ça, une jeune actrice, de réussir à exister à ce point-là dans un film de Scorsese, parce que quand même, Scorsese, alors il a pas fait que des films comme ça, mais c'est quand même beaucoup des films entre guillemets de bonhomme, tu vois, avec essentiellement des personnages masculins. Enfin, je pense par exemple Sharon Stone dans Casino, qui bon, c'est pas facile de se faire une place à travers ce casting masculin qui est vraiment toujours sublimé, toujours iconisé par la caméra de Scorsese, qu'il adore ces personnages de bandits, de gangsters, enfin ou gangsters modernes pour le Loup de Wall Street. Mais du coup, c'est à la fois difficile d'exister à côté de ces acteurs, dans ce genre de personnage et à travers la caméra de Martin Scorsese, qui, tout génie qu'il est, voilà, c'est pas les personnages féminins, sa marque de fabrique, on va dire. Et donc, en plus, à travers le personnage qui est censé être une bimbo, enfin, en fait, elle avait tout pour se faire manger par le film. Et en fait, je pense que d'ailleurs, ça n'aurait pas été à contre-courant de ce que le film essayait de faire. Et pourtant, elle a quand même réussi à se faire une place à travers ça et à vraiment se faire reconnaître pour un talent d'actrice, quoi.
Et j'aime bien que tu parles de Sharon Stone, parce que pour moi, je trouve que tu sens que Scorsese a un peu essayé de retrouver cette énergie-là. Et ce qui est fou, c'est que je trouve vraiment Margot Robbie fait héritière de Sharon Stone dans Casino, alors que Sharon Stone avait déjà quand même une carrière à ce moment-là, elle avait déjà un background en tant qu'actrice, donc c'était peut-être plus simple de s'affirmer aussi dans un film comme celui-là. Là, elle avait tout à perdre, en fait, Margot Robbie dans ce rôle-là, et le fait qu'elle tienne autant, surtout face à DiCaprio, qui commençait en plus à être déjà dans cette période-là où il choisissait très bien ses rôles, il tournait beaucoup moins, et quand il choisissait un film, tu savais que c'était parce que voilà, c'était un gros projet et qu'il fallait en plus que lui prenne un peu toute la place là-dedans.
Oui, donc sa course à l'Oscar, là.
Oui, voilà, ouais. Tu vois. Et en fait, mine de rien, elle a la place d'exister, mais peut-être d'ailleurs parce qu'elle la prend, en fait, et elle n'hésite pas à la prendre.
Et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand elle revient après coup sur le film, elle se disait, mais moi, en fait, au bout d'un moment, j'ai dédramatisé ces scènes de nu quand j'ai accepté de les faire parce qu'en fait, je me disais juste que personne n'allait me remarquer dans ce film. À côté de Leonardo DiCaprio, moi, j'étais absolument personne. Je pensais que bon, bah voilà, en fait, ma performance, avec les quelques scènes qu'elle avait dans le film, elle allait être totalement évacuée. Alors qu'au final, non, le Loup de Wall Street, même si elle a finalement assez peu de temps d'écran et que c'est pas elle la tête d'affiche, c'est sa grande révélation hollywoodienne.
Oui, et c'est même peut-être le paradoxe qui m'intéresse le plus avec Margot Robbie, c'est que t'as le Loup de Wall Street et t'as déjà cette dynamique-là où souvent, même si elle a pas un premier rôle, tu sens très vite que c'est elle qui va un peu choper l'énergie d'une scène, voire carrément parfois éclipser ses collègues au premier plan, qui sont souvent des hommes en plus, et elle arrive à choper une énergie vraiment à éclipser ses camarades de jeu, alors que jusqu'à assez tardivement, finalement, elle a peiné à avoir des premiers rôles, alors finalement qu'elle a ce truc de star qui mériterait des premiers rôles.
Bah c'est vrai qu'après le Loup de Wall Street, il y a eu un peu cette... Je vais pas parler de traversée du désert, parce qu'elle a quand même joué dans des films, mais où il y avait un peu cette mise sous tutelle, c'est-à-dire que on a vraiment découvert une actrice qui était très douée, qui avait vraiment énormément de potentiel, mais d'un autre côté, on va sans arrêt la scotcher à un autre premier rôle masculin. Et ça a été ça pendant un moment, pour citer, je sais pas, par exemple, Les Survivants, l'adaptation de Zsa Zakaria, ce qui d'ailleurs était très drôle parce que de base, elle avait auditionné pour ce film avant la sortie du Loup de Wall Street et les producteurs lui avaient dit « Bon, bah t'es gentil, mais en fait, t'es personne, donc on peut pas te mettre dans un rôle principal, on peut pas financer ce film sur ton nom, en fait, t'as pas encore assez de popularité. » Et bah, quand le Loup de Wall Street est sorti, « Oh, bah ça a changé !» Et donc, du coup, c'est comme ça qu'elle a eu le premier rôle féminin, mais toujours engoncé entre deux personnages masculins.
Oui, et puis après DiCaprio, c'est vraiment Will Smith par deux fois qui lui sert justement de béquille entre guillemets, avec d'un côté Diversion, donc un an après le Loup de Wall Street en 2014, et deux ans après le fameux Suicide Squad de David Ayer, où lui interprète Deadshot et elle interprète Harley Quinn. Et dans les deux cas, enfin, moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que bon, peut-être déjà que Will Smith était suffisamment éteint à ce moment-là, hein, oui. Il ressortait d'After Earth, c'est peut-être pour ça aussi, mais dans les deux films, je le trouve mais absent au possible, et elle, en fait, mais du coup, je sais pas si elle en profite, si c'est inconscient ou si c'est juste parce que son perso est plus intéressant aussi, mais c'est ça, ça crée un contraste de fou, tu vois. Alors limite, bon, ok, Deadshot, il est déjà plus éteint comme personnage que l'extravagance d'Harley Quinn, donc c'est normal, mais sur Diversion, où c'est vraiment lui qui est le personnage qui a le point de vue du film, je trouve ça hallucinant qu'en fait tu ne remarques qu'elle.
Bah, probablement que pour Will Smith, c'était un rôle comme ça, histoire de toucher un chèque et de bouffer, puisque bah, c'était un peu la cinquième roue du carrosse. Il passe après Ryan Gosling qui n'a pas pu prendre le rôle, et puis je sais plus quel acteur. Ouais, il y a un autre acteur aussi, comme pour Margot Robbie, normalement c'était censé être Emma Stone, puis ensuite Kristen Stewart, et les deux se sont retirés du projet.
Super.
Donc il y avait un peu ce truc de, pour Margot Robbie, forcément ça reste une occasion, puisque bah, sa carrière pour l'instant elle en a quasiment pas, donc ça reste un rôle à prendre, qui plus est quand même avec Will Smith en face. Tu regardes l'affiche, c'est vraiment Will Smith qui est en premier plan, et oui, puis elle qui est juste derrière, où tu vois trois quarts de son visage.
Elle met sa main sur son épaule, c'est
ouais,
genre
voilà, elle est là, quoi, derrière. Reste au fond, genre bien planqué derrière le personnage masculin, c'est clairement ce que fait tout le scénario, mais par contre à l'écran, c'est vrai qu'elle le bouffe quoi, parce que ben elle a l'énergie, elle a envie d'y croire.
Bah, surtout que c'est quand même un film qui parle de bande de pickpockets, donc t'as un truc à la fois un peu à la Soderbergh, surtout que c'est fait par les réals de Crazy Stupid Love, donc tu sens qu'il y aurait l'envie d'un truc un peu piquant, un peu énergique quand même, alors qu'au final bon le truc est un encéphalogramme plat du début à la fin, mais au début tu sens que ça veut quand même instiguer ça, où en fait c'est lui qui se fait draguer par Margot Robbie, mais lui sait que c'est une pickpocket, mais débutante, alors que lui c'est un pro, il connaît tout, donc il lui apprend les ficelles du métier, et à partir de là tu te doutes bien que le film va se reposer sur des rebondissements permanents et sur voilà, tout un tas de retournements de situation plus ou moins abracadabrantesques, mais c'est vraiment elle qui amène là aussi finalement le tempo du film.
Mais alors en plus ce qui est vraiment un petit peu tragique pour elle dans ce film que je trouve assez catastrophique, c'est que elle on sent que dès qu'elle peut, elle se donne à fond, et en fait elle se démène pour montrer qu'elle joue bien, donc les scènes où elle doit pleurer, où elle se sent trahie, ou alors elle doit avoir des émotions un peu contradictoires sur le visage, elle donne tout franchement, et elle apporte vraiment de l'épaisseur et de la profondeur à un personnage qui vraiment sur l'écriture n'en a pas, et à côté de ça, le film ensevelit le personnage sous une avalanche de blagues sexistes et sexualisantes sont lourdes sur elle est gratuitement en maillot de bain dans telle ou telle scène
avec
et qu'on la regarde
longuement avec des talons de 20 cm.
Voilà, avec des talons, oui, bien
puis
sûr.
Il est décolleté alors qu'elle est filmée vraiment en plan bien taille pour bien que se mettre ce qu'il faut en avant.
Et donc il y a cette espèce de guéguerre qui se joue entre elle qui essaye de s'affirmer et qui apporte des choses au personnage et la mise en scène et les dialogues qui sont constamment contre elle quoi. Donc c'est très très bizarre, en fait c'est presque un peu le seul intérêt du film, je trouve, de la voir comme ça, c'est vraiment aller au front et se battre pour exister en tant que bonne actrice dans un film qui fait tout pour le contraire.
Alors que c'est tout le paradoxe du film, qui prétend ce que fait dire le personnage de Will Smith à Margot Robbie, c'est, enfin il lui dit justement il faut de la diversion, c'est ça tout notre métier, c'est tu montres ta tête et pendant ce temps là ta main fait autre chose pour choper le portefeuille ou un truc comme ça, et donc là il lui fait comprendre que bah, de toute façon toi t'es super jolie, donc utilise ton corps comme une arme, ce qui d'ailleurs était finalement assez cohérent avec déjà ce qu'il y avait chez Scorsese avec le personnage de Naomi, mais au final ok, mais faut justement faire une diversion par le récit et par la mise en scène, mais en fait c'est, finalement le film ne se contente juste de la sexualiser à donf, et c'est vrai que elle est très glamour, elle est très sexy, mais le film n'apporte pas grand chose de plus pour au final la traiter un peu comme une cruchote quand même du début à la fin du film.
Pendant tout le film en fait t'acceptes qu'elle soit réduite à son physique, contre la taxe de bonasse et tous les synonymes pour te dire que c'est une très belle femme.
Une espèce de personnage beauf qui est avec elle mais qui en fait elle est toujours complice, c'est ça le truc, c'est on te la filme elle en train de rigoler à ses blagues alors que c'est genre tu fais ah non mais c'est super gênant.
Voilà, quand je la baiserais bien, putain on dirait Gainsbourg avec Whitney Houston. Tu sais, c'est
un petit parallèle d'actualité.
Et quand on compare un homme à Serge Gainsbourg, c'est rarement flatteur. Mais voilà, il y a tout ce truc où on accepte que le personnage soit un peu maltraité parce qu'en fait, on attend au dernier moment le renversement du rapport de force, de domination, et que en fait, non. Tout ça, justement, c'était une diversion pour le public, mais qu'en fait, bah, ce personnage, c'est beaucoup plus que la cruche de service qui comprend rien à la vie. Et ça reste la cruche de service qui comprend rien à la vie. Will Smith, il est trop fort et c'est lui qui avait mené tout le plan et tout. Et donc, au final, elle est ce que le film lui reproche d'être. C'est très bizarre dans l'exécution.
Et pourtant, au final, on retient qu'elle. Et enfin, voilà, c'est vraiment là, on sent qu'elle est sous-exploitée et qu'elle mérite mieux. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est pénible, c'est que c'est un modèle qui va continuer à lui coller à la peau et dont elle va continuer d'être victime, notamment avec Suicide Squad, du coup, qui arrive après.
Ah bah, t'as pas plus objectifiant, je pense. Enfin, de toute façon, moi, je sais que Suicide Squad, le film avait déjà perdu au moment où je me dis. Au début du film, t'as le flashback inaugural sur Harley Quinn et tu te dis de toute façon, le film ne peut traiter que du sujet, effectivement, de elle qui est sous l'emprise du Joker et qui apprend potentiellement à s'en défaire au fur et à mesure du film. Donc je me dis, quand t'as le flashback sur elle qui tombe amoureuse de lui et qui est vraiment filmée comme le cliché de l'infirmière super sexy avec ses talons hauts et ses lunettes et tout, je fais pitié. Et puis alors les effets néons dégueulasses du film à ce moment-là. Mais alors vraiment, t'as ce plan quand ils débarquent dans l'espèce de camp là où ils vont être envoyés sur le champ de bataille, et que t'as littéralement ce plan qui remonte elle des pieds à la tête pour soi-disant l'iconiser alors qu'elle est en train de mettre son t-shirt à ce moment-là, et que surtout la musique s'arrête au moment où t'arrives à sa tête et qu'elle-même perçoit que tout le monde la regarde en fait, et que c'est censé être traité comme un effet comique, et toi tu fais juste non. Pitié David, non fais pas ça.
Oui, puis clairement pour l'avoir revu il y a pas très longtemps par conscience professionnelle pour préparer cette réunion,
c'est très courageux. On fait un dur métier quand même.
C'est vrai que tu sens encore, non seulement il y a le scénario qui donne un peu des fausses pistes, mais tu sens qu'elle a encore un peu du mal à appréhender et à jouer le personnage d'Harley Quinn, parce que c'est un personnage qui est immensément complexe. Mmh. Et bon, après, qui lui correspond très bien, parce que sur ce côté femme un peu poupée, mais qui est complètement cinglée, puis qui peut être vraiment très très mal aimable, mais au final qu'on aime bien, enfin en fait qui a un peu mille personnalités et mille facettes, je trouve que ça lui correspond très bien. Mais pour autant, il y a toujours ce paradoxe où le personnage est maltraité, mais elle s'en sort admirablement bien dans ce rôle qui, en plus, elle n'a pas encore totalement appréhendé, comme je disais juste avant. Et encore une fois, bah ouais, elle bouffe Will Smith et tout le casting masculin du film.
C'est même marrant parce qu'elle bouffe tout le monde. Tu vois, il y a cette scène dont je me souvenais plus, mais qui est assez rigolote pour le coup, où il y a les premiers infectés, la homme caviar là, qui débarque dans le film à ce moment-là. Et elle se retrouve toute seule dans un ascenseur.
Oui.
Et vraiment, tu sens vraiment que c'est pour lui donner son moment à elle, où du coup, il y a un mec qui débarque. Elle le bute, alors en faisant une sorte de prise improbable où il filme bien son cul en plan plongé pour bien que tu vois qu'elle à ce moment-là, mais du coup c'est elle a son moment à elle avant que l'équipe ne la rattrape et pour montrer d'ailleurs qu'elle est autonome et indépendante et qu'avec sa batte de baseball elle peut tuer des gens, même si c'est très improbable d'envoyer une meuf qui se bat avec juste un flingue et une batte de baseball et qui n'a pas de super pouvoir sur une zone de combat militaire face à des infectés qui sont gérés par une sorcière qui fait du lap dance c'est improbable, mais bref.
Oui, et puis on l'a pas cité, mais genre juste avant Suicide Squad, oui, il y a eu le Tarzan.
Oh mon Dieu, oh Tarzan.
Où, là, bah, elle joue un personnage, bon, elle joue Jane Porter, qui est quand même une Jane beaucoup plus lisse que la Jane un peu intrépide et avec ce côté un petit peu rebelle que perso j'adore dans le film d'animation de Disney. Mmh. Voilà, pendant très longtemps, moi je m'identifiais beaucoup à Jane, c'était elle que je voulais être
dans
les films.
Il y a pas Collins dans le film David Yates, c'est déjà un problème.
C'est ça, là, et voilà, où elle joue vraiment ce personnage totalement transparent qui n'existe que parce que Tarzan existe, et au final on reste beaucoup sur voilà Tarzan, l'homme viril qui est court en enlevant sa chemise comme ça pour aller
Puis là, il y en a des ralentis, hein, putain, quel film de merde.
Voilà, mais une anecdote que je trouve franchement genre super drôle, encore une fois, je vais balancer plein d'anecdotes, hein, désolé d'avance, mais apparemment, quelqu'un sur cette planète a estimé que Margot Robbie devrait peut-être faire un petit régime, perdre quelques petits kilos pour jouer Jane Porter.
Okay.
Seigneur.
Voilà, déjà, quelqu'un dans le monde a pensé ça. Et ce que j'ai trouvé génial, ça a été sa réponse de dire « Oh non, non, moi, franchement, j'ai pas envie de faire deux régimes, tout simplement, parce que là, je suis à Londres et moi, j'avais prévu de faire la tournée des bars. Du coup, faire un régime, c'est pas trop dans mes plans, là. »
You go, girl.
Et j'étais en mode « Mais en fait, c'est génial, un peu, cette insouciance et cette candeur, même si après, elle avait un petit peu nuancé en expliquant plus logiquement que un personnage féminin à son époque, oui, si elle avait un peu de bide, bah, ça choquait pas du tout, on n'était pas du tout sur les mêmes standards de beauté.
Après, le réalisme du Tarzan de David Yates est vraiment sujet à
oui,
caution au
est,
vu des effets visuels dégueulasses du film.
Voilà, c'est-à-dire que d'un côté, on a un Tarzan qui a pas un poil au torse.
Ah bah, c'est surtout que la scène de, tu sais, dans Indiana Jones 4 avec Shia LaBeouf qui fait les lianes, c'était plusieurs années avant et c'est probablement encore moins moche quand même que ce qu'il y a dans le film de David Yates, donc c'est quand même c'est un peu chaud patate.
C'est dire.
Donc oui, c'est vrai qu'il y a ce côté, on n'arrive pas à la mettre dans des premiers rôles, on la rattache forcément à d'autres personnages masculins. Par contre, il y a le cas The Big Short, qui est quand même grave intéressant, puisque bah, elle a un caméo, donc pour expliquer aux spectateurs la crise des subprimes, et elle est clairement présentée comme Margot Robbie, qui est dans son bain moussant avec sa flûte de champagne et qui va expliquer la crise des subprimes, donc elle est déjà présentée comme une personnalité influente alors qu'elle n'avait pas de carrière encore.
Ouais, parce qu'en plus, il y a d'autres caméos comme ça très rigolos dans The Big Short, mais il y a notamment, je crois, Selena Gomez, des personnalités qui étaient quand même plus affirmées à cette époque-là qu'elle. Mais, et d'ailleurs, finalement, c'est peut-être son caméo à elle qu'on retient le plus. Surtout que je crois que je suis plus affinée par un get the fuck off à la fin.
Oui, voilà, genre c'est bon, t'as compris, allez, casse-toi.
C'est ça.
Et moi, je me rappelle à l'époque où j'ai découvert le film au cinéma, pour le coup, j'avais pas encore vu Le Loup de Wall Street, Suicide Squad et tout. C'était la première fois que je la voyais vraiment à l'écran et je commençais à en entendre parler, bien sûr, autour des films qu'elle avait déjà fait. Mais je connaissais vaguement son nom et comme je le disais tout à l'heure, j'avais pas vraiment imprimé son visage, quoi. Et donc ça débarque au milieu du film, elle dit vraiment « Bonjour, c'est Margot Robbie qui vous parle, machin ». Et vraiment, je me disais « Mais attends, j'ai loupé un pan de l'histoire du cinéma pour que cette meuf puisse déjà intervenir dans un film qui n'a rien à voir avec elle, sous son propre nom, comme étant une référence, tu vois, un clin d'œil au spectateur pour briser le quatrième mur. Et en fait, bah non, effectivement, c'est juste qu'elle n'était pas encore très connue. Mais alors pourquoi, enfin, c'est intéressant de s'interroger sur pourquoi, en fait, tout de suite, elle a été vue comme une icône, tout de suite, les réalisateurs ont pu projeter des choses sur elle comme
ouais,
ça.
Oui, parce que tu vois, là, il y a un effet un peu pub, elle, dans sa baignoire avec le bain moussant et la flûte de champagne. Mais en fait, ce que je trouve intéressant dans la plupart des premiers films, y compris dans les gros paradoxes qu'il y a derrière, notamment dans Diversion et dans Tarzan, c'est que tu sens que Margot Robbie inspire un truc chez ces cinéastes-là, autant par son jeu que par sa plastique, de peut-être de Barbie, justement, où tu peux y projeter plein de choses et tu peux finalement la retransformer en version modernisée d'un certain glamour hollywoodien classique. Et je pense vraiment, tu vois, par exemple, dans Diversion, elle a plein de looks différents dans le film. Il y a vraiment quelques scènes où, par ses robes, par sa coiffure, tu penses vraiment à Grace Kelly, où tu sens qu'il y a l'envie d'en faire une actrice hitchcockienne à donf, même si, bon, derrière, le film est très mal écrit, donc ça n'aide pas. Mais tu sens que c'est l'ambition du film. Et dans Tarzan, tu penses forcément quand même à Catherine Hepburn dans African Queen ou ce genre de choses-là. Donc, je pense que Margot Robbie amène, tu vois, sert un peu de toile vierge un petit peu pour certains cinéastes qui amènent d'autres choses, certains de leurs référents, pour amener aussi ces personnages dans une certaine direction. Et je pense qu'ils veulent peut-être réveiller à travers elle un certain glamour un peu à l'ancienne qui a un peu disparu finalement à Hollywood.
Oui, mais tu vois, c'est un peu ce que disait Hitchcock, ce qu'il aimait chez ses actrices blondes, c'était le fait qu'elle lui évoque le feu sous la glace, souvent ce qu'il disait lui avec son regard un peu douteux sur, qu'il portait sur ses actrices.
Libidineux, tu peux dire comme ça.
Et du coup, c'est vrai que je pense que Margot Robbie, tu vois, par sa plastique relativement parfaite de l'extérieur, elle dégage effectivement une froideur. Et en même temps, quand elle joue et qu'elle vient apporter de l'émotion à ses personnages, mais en fait, justement, elle déstabilise parce qu'elle se révèle réussir à être très émouvante sous quelque chose de très froid, quoi. Donc c'est pour ça qu'on projette des idéaux assez classique sur elle, je pense.
Bah, soyons très honnêtes, ils ont fait un remake de Rebecca sur Netflix. Le jour où ils font un remake de Sueur froide, si c'est pas elle qui a le rôle de Kim Novak, ce serait juste aberrant.
Au final, c'est vrai que cet aspect très parfait, très lisse physiquement de ces personnages est très très souvent mis en contradiction avec une personnalité plus rebelle qui veut justement égratigner ce vernis. Moi, j'ai pensé en le voyant dans Dreamland, un film indépendant, voilà, qui est pas très connu, qui a pas vraiment marqué les mémoires, mais où dedans elle joue un personnage très ambigu de femme très belle qui justement se sert de sa beauté pour un petit peu manipuler en renversant en plus les dynamiques de genre entre personnages féminins et masculins, que je trouve très intéressant. Il y avait aussi dans Mary Stuart.
Oui, alors là c'est intéressant dans Mary Stuart parce que pour le coup elle fait un rôle qui la met vraiment pas spécialement en valeur physiquement, donc elle incarne la reine Elisabeth première et donc son conflit avec Mary Stuart et en fait le personnage principal du film c'est clairement Saoirse Ronan dans le rôle de Mary Stuart, mais Margot Robbie du coup elle est en retrait et en même temps son rôle est quand même hyper important et en fait elle incarne quelque chose qui est vraiment à l'opposé de tout ce qu'elle a fait jusque là, donc c'est parce que du coup elle a un physique assez moderne qui fait qu'on la voit effectivement dans des productions qui sont en général d'actualité, c'est pas des films historiques qu'elle fait, donc là elle se retrouve projetée dans un film historique où elle a la coiffure et le look de l'époque qui sont pas forcément très saillants et très rapidement dans l'histoire la reine développe en fait la petite vérole et elle se retrouve complètement défigurée, donc il y a une scène où vraiment on voit son visage qui est plein de pustules et après pour le reste du film ces pustules ont cicatrisé, donc elle a quand même le visage qui est tout plein de crevasses et par-dessus elle met plein de maquillage à fond pour essayer de les masquer et donc elle a cette espèce d'aspect hybride où à la fois elle dégage vraiment le charisme et la prestance d'une reine et en même temps physiquement elle est complètement abîmée. Ça va aussi avec son personnage qui est un peu tiraillé, qui va se retrouver plus ou moins obligé on va dire à faire exécuter Mary Stuart. Et en même temps, qui profondément ne le veut pas. Et du coup, c'est pareil, c'est hyper intéressant. Et c'est en peu de choses, elle dégage beaucoup de profondeur dans un personnage qui est aux antipodes de ce dans quoi on la voit habituellement.
C'est marrant parce que tu vois, là, du coup, on brasse quand même assez large déjà. Et ça prouve que malgré son jeune âge, quand elle a fait de Wall Street, et puis là, tu vois, vraiment les années 2010 lui ont permis d'avoir un paquet de rôles maintenant. Je pense que du coup, c'est peut-être bien si on se concentre sur elle, un peu de recentrer aussi. Quand on pense à Margot Robbie, à quel rôle on pense d'abord ?
Forcément, si on part du grand public, Harley Quinn.
Ouais.
Parce que c'est vraiment... Oui, elle a été révélée avec le Loup de Wall Street, mais le grand public a vraiment retenu le nom de Margot Robbie parce que Harley Quinn.
Et en même temps, c'est marrant parce que tu vois, par rapport à tellement d'acteurs qui ont fait maintenant, évidemment, des super-héros et finalement, tout Hollywood a dû passer par là.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est intéressant parce qu'il y a plein d'acteurs qui se sont fait récemment révéler par Marvel ou DC en étant eux peu connus, qui justement servent à projeter leur visage pour matérialiser un personnage de comics. Elle, elle était quand même déjà un peu identifiée et tout le monde était plutôt excité à l'idée de la voir dans le rôle d'Harley Quinn. Et je trouve que malgré tout, tu vois, c'est une des rares personnes qui non seulement a vraiment réussi à apporter quelque chose de très neuf sur le personnage, qui était en plus qui est l'un des rares persos d'univers de comics qui ne vient pas d'un comics, puisqu'à la base, elle, elle vient de la série animée de Bruce Timm. Donc c'est déjà... De quoi ?
Et Paul Dini.
Et Paul Dini, pardon. et qui, justement, a évité, tu vois, de se complaire dans ce qu'était la série animée et a vraiment réinventé le personnage derrière. Et en même temps, tu ne la retiens pas que pour ça et ou que pour Harley Quinn, d'autant que finalement, le personnage est apparu dans trois films, donc le Suicide Squad de David Ayer, Birds of Prey, et dans The Suicide Squad de James Gunn, et où, en fait, dans les trois, enfin, le personnage n'a rien à voir.
Moi, ce que je trouve assez ouf avec ce personnage, c'est que, en fait, elle a réussi à vraiment redéfinir dans l'imaginaire collectif ce que c'était que le personnage d'Harley Quinn. Et c'est des choses qui n'arrivent pas, finalement, si souvent dans le paysage des super-héros au cinéma. Il y a eu Robert Downey Jr. en Iron Man, mais, et voilà, qui a un peu plaqué son visage, on va dire, et son interprétation sur le personnage. Et Heath Ledger dans le Joker aussi, qui est un peu redevenu, on va dire, la nouvelle norme du Joker, voilà, qui n'a pas du tout réussi à se faire supplanter, évidemment.
Tu veux dire que Jared Leto n'a pas réussi à faire ça ?
Voilà, pas tout à fait. Mais justement, dans le même film, Harley Quinn, bah, elle est très vite devenue, voilà, pour tout le monde, un peu la Harley Quinn de Margot Robbie. Et du coup, je trouve ça ouf parce que ça n'arrive pas si souvent, et encore moins pour un personnage féminin. Donc là, c'est pareil, ça donne un peu une idée de l'aura et de la puissance que peut avoir Margot Robbie à travers un écran de cinéma, quoi.
Bah, c'est pour ça qu'au final, l'autre rôle qu'on retient, c'est genre sa performance à Oscar, qui est moi, Tonya.
Non, oui, complètement. Là, c'est... Alors moi, j'ai toujours un peu l'impression que c'est le genre de film qui est un peu comme un passage obligé pour les jeunes starlettes hollywoodiennes qui ont envie de prouver que justement elles sont plus qu'un physique et qui sont un petit peu obligées, entre guillemets, de passer par ce film biopic où elles vont incarner quelqu'un qui... Enfin, un personnage pour lequel elles vont être enlédies. C'était le cas aussi de Charlize Theron, justement, à l'époque de Monster, de Patty Jenkins, où elle incarnait Eileen Wuornos. Bon, pour le coup, Charlize Theron, elle avait été beaucoup plus... Elle était pleine de prothèses, elle était beaucoup plus transformée. Mais là, malgré tout... Voilà, c'est donc l'histoire de Tonya Harding, qui était une patineuse qui a été accusée d'avoir fait casser le genou de sa rivale Nancy Kerrigan. Et donc, c'est un peu le parcours de cette nana, mais qui en fait n'est pas que coupable. Enfin, en tout cas, c'est plus subtil que ça. Mais c'est un personnage qui incarne beaucoup de causes à lui tout seul. Donc, ça parle de mépris de classe, parce que, évidemment, Tonya Harding, c'était une nana qui venait d'un milieu très, très populaire et qui présentait très mal. Et du coup, elle a été beaucoup dépréciée, en tout cas, dans ses performances sur la glace, parce qu'elle faisait pas assez classe, parce qu'elle présentait pas assez bien, parce qu'elle était pas riche du tout et que ça se voyait. Mais aussi, évidemment, la misogynie, ça parle de violence conjugale, c'est hyper important. Et après, bah, finalement, ça se termine sur cette espèce de moment où, au tribunal, où elle a une scène très très forte, en fait, où elle explique à quel point le patinage artistique, c'est toute sa vie, et que comme elle a pas d'éducation, elle ne sait rien faire d'autre que ça, et que si on lui enlève le droit de patiner, en fait, elle disparaît. Et Margot Robbie, elle est formidable dans cette scène, en fait, parce que par ailleurs, justement, elle est pas tellement enlaidie par rapport notamment au modèle Tonya Harding, qui était quand même pas Margot Robbie dans la vraie vie. Et
quelle belle façon diplomate de le dire.
mais en fait, dans cette dernière scène, bah, on s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est sa performance et la passion du patinage qu'elle réussit à faire passer à travers sa performance. Et effectivement, je pense que c'est un grand rôle dans sa carrière.
Et c'est marrant que tu le dises comme ça, parce que moi, justement, je sais que quand le film était sorti, j'y allais un peu à reculons parce que tout le monde en parlait, mais je me disais, ça sent le film un peu putassier à Oscar et elle cherche sa performance à Oscar. Et j'avais été très surpris de me rendre compte que non seulement le film, je trouve, a une énergie dans son montage que elle vraiment soutient. Enfin, je trouve vraiment que c'est sa performance qui est vraiment au centre de l'équation du truc. Et tout dans l'énergie du montage, qui devient assez frénétique quand même en cours de route, et notamment dans l'éclatement vers la fin du montage alterné, quand tu vois son garde du corps qui prend la décision de casser le genou de sa rivale sans qu'elle soit trop au courant, et que tu vois que c'est la descente aux enfers. Je trouve qu'il y a un truc finalement assez proche de ce qu'il y avait déjà chez Scorsese à ce moment-là, où elle accompagne vraiment la folie progressive du récit. Et tu sens que ça le... Enfin, c'est quelque chose qu'elle arrive très très bien à porter, et encore une fois, c'est elle qui donne le tempo sur ce genre de film.
Je suis d'accord que moi aussi, ce qui me fascine avec Margot Robbie quand elle joue, c'est cette énergie chaotique qu'elle arrive vraiment à insuffler à tous ses personnages, vu qu'en plus, elle joue généralement des personnages qui sont très chaotiques, que ce soit des personnages féminins qui sont vraiment ambigu que t'as pas forcément envie d'apprécier, auquel t'as pas forcément envie de t'identifier. C'est pas des performances qui sont franchement faciles à jouer. Et d'un autre côté, il y a beaucoup aussi ce motif du personnage féminin un peu corseté, un peu ce destin contrarié qu'on retrouve avec cette même couche de vulgarité dans Babylone.
Ouais, mais ça c'est passionnant parce qu'en plus tu vois, donc Babylone c'est peut-être l'un de ses très grands rôles, et même si le film a été un immense flop, là aussi tu vois, elle est quand même entourée par Brad Pitt, et c'est pourtant c'est elle que tu retiens. Enfin c'est vraiment je trouve que c'est vraiment c'est son énergie à elle, tu vois, dès l'intro du film en fait, elle arrive, c'est elle avec sa bagnole qui pète le pot de fleurs à l'entrée, et tout de suite ça donne là aussi le tempo du film. Mais ce que je trouve passionnant, c'est que t'as Babylone, mais avant ça t'as déjà Once Upon a Time in Hollywood, et même sa toute petite scène mais qui est magnifique je trouve dans Asteroid City de Wes Anderson. Et ça renvoie à ce qu'on disait avant finalement, c'est cette façon qu'elle a aussi de permettre à des réalisateurs, et notamment des réalisateurs qui font un propos méta sur le cinéma, qui parle de cinéma à travers leur film, d'y projeter aussi une certaine idée d'Hollywood, de sa vulgarité, de ce que Hollywood cache aussi, parce que c'est pas des actrices que tu vois tellement au travail, mais plus des actrices que tu vois dans les coulisses de leur vie, dans l'image qu'elles doivent représenter par rapport à ce qu'elles sont dans la vraie vie, et comment il y a une forme de mélancolie sur un temps disparu, mais finalement qui finalement n'est pas tellement à regretter, parce que notamment dans Babylone, bon, t'as évidemment ce propos sur l'arrivée du parlant qui fait qu'une actrice comme elle a vraiment du mal à s'imposer derrière, et d'ailleurs ce qui donne, je pense, la plus grande scène du film, hein, la scène du tournage en parlant répétitive au possible.
Cauchemardesque
qui est, dans lequel elle est absolument géniale. Tu sens le bouillonnement qui ne demande qu'à exploser et a fini par totalement péter un câble. Je trouve qu'il y a un truc assez génial dans voilà, cette façon qu'elle a de représenter quelque chose d'assez triste en fait, et que t'as aussi dans le Sharon Tate, que vraiment Tarantino filme à la fois comme quelque chose de purement fantasmatique, mais en même temps d'aussi totalement fantomatique. Et notamment quand elle déambule dans la rue jusqu'à aller voir son propre film, tu sens que Tarantino tient à ce côté-là, en fait, ce côté très presque éphémère, où justement son corps n'est que peu de choses par rapport même à la projection de la réelle Sharon Tate qu'elle-même observe à ce moment-là.
Mais c'est un peu aussi, du coup, le genre de thématique qu'elle évoque dans Asteroid City, où elle est, du coup, elle incarne vraiment le fantasme aussi de réalisateur de ce que peut être une star à l'écran, dans ses scènes filmées en noir et blanc, où elle est dans un décor en carton-pâte, et où vraiment. Le héros à ce moment-là, le personnage qui joue son mari, Jason Schwartzman, est vraiment comme face à un fantasme de cinéma, de star projeté sur un écran de cinéma, et bah voilà, en fait ça continue vraiment cette espèce d'image de l'Hollywood fantasmé qu'elle représente pour les réalisateurs, aussi bien l'aspect tragique que positif.
Bah, surtout que là, elle est le personnage qui a été coupé du scénario, enfin c'est même pas coupé du montage, c'est vraiment coupé du scénario. Elle a fait des essais, mais finalement elle a pas été gardée, et elle tourne sur le studio d'en face, ce que je trouve assez passionnant.
Et il rejoue cette scène qui était pas censée exister aussi, c'est pour ça que je trouve.
Mais c'est même génial, parce que dans Babylone, t'as ce truc aussi brillant du début du film, donc avec ses différents tournages dans le désert, où tous les films muets se tournent en même temps, et où elle du coup est dirigée par donc une réalisatrice qui dans la vraie vie est la femme de Damien Chazelle. Et ce qui est génial, c'est qu'elle-même dit que, enfin, la scène elle est mortelle, parce que la réalisatrice découvre le talent d'actrice de Nelly, et elle lui demande, est-ce que je sais que j'abuse, mais est-ce que c'est possible de juste donner une larme sur ton gros plan machin. Et Margot Robbie disait qu'il y avait quelque chose de vraiment vertigineux là-dessus, parce que à jouer ça avec du coup ce personnage de réalisatrice qui lui dit comment jouer le truc, et après il y avait Damien Chazelle qui entre les prises venait la voir pour lui dire, alors justement du coup est-ce qu'on peut un peu moduler le truc, est-ce que tu peux justement le jouer comme ça en ayant deux larmes plutôt qu'une machin, et qu'en fait il y a voilà ce vertige méta qui prend lieu à ce moment-là, et en même temps elle, tu sens qu'elle a ce côté presque intemporel dans la façon dont elle est perçue par les réalisateurs, tout en étant, je trouve, ce fantasme qui est toujours mis en contradiction avec la réalité des choses. Parce que tu vois, quand je parlais de coulisses avant, moi, il y a ce truc très étonnant chez Tarantino, où Tarantino, tu sens qu'il a cette envie aussi de fantasmer les années 70 pour mieux te montrer ce qu'il y a de puant, de crade dans ce milieu-là, et l'arrivée notamment, enfin, la fin du mouvement hippie avec justement Charles Manson et ce genre de truc-là. Et quand il filme Margot Robbie, il te l'iconise à donf au début du film. Et finalement, l'une des premières scènes qu'elle a, elle toute seule, c'est elle dans son lit qui ronfle les baves au réveil, et t'as ce truc, tu vois, qui te décontenance totalement, parce que tu t'attends pas à ça. Et en fait, je trouve que finalement c'est bête, mais dans ce plan là t'as déjà tout de la démarche de Tarantino sur d'ailleurs l'idée du souvenir et comment tu perturbes le souvenir, ce qui se retrouve aussi avec le personnage, tu vois, de Brad Pitt, et donc l'ambiguïté du par rapport à sa femme, est-ce qu'il l'a tuée ou pas, ou tu vois la scène mais pas jusqu'au bout, et tout relève du fantasme qui s'arrête à un certain moment en fait.
Et là, en fait, à force de passer en revue ses rôles d'actrice, on s'aperçoit à quel point elle a une place spéciale dans le star system d'aujourd'hui.
Oui, c'est intéressant parce que justement, on voit bien que le star system, à l'heure notamment des grosses franchises, peine à ce que les acteurs existent en dehors des gros personnages qu'ils incarnent, notamment des comics. Et on l'a bien vu d'ailleurs avec Robert Downey Jr. qu'on citait plus tôt, passé Iron Man sur Avengers Endgame, il a eu beaucoup de mal à rebondir jusqu'à Oppenheimer, d'ailleurs, ce qui est assez amusant aujourd'hui. Et dans le cas de Margot Robbie, ce qui est intéressant, c'est que pas mal des rôles qu'elle a eu où elle était assez importante au casting, notamment donc Babylon, Birds of Prey et The Suicide Squad, ont tous été des flops au box-office. Alors pour des raisons diverses, hein, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses. Babylon, c'est un film qui a coûté extrêmement cher et qu'on a beaucoup mis sur le nouvel espoir de Damien Chazelle après La La Land, et finalement ça a pas trop pris, même pas du tout d'ailleurs. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a pas mal d'articles, notamment chez Hollywood Reporter ou Variety, qui la mettaient pas forcément en cause, mais qui interrogeait sa responsabilité là-dedans, en fait, de dire tiens donc, elle est très importante dans ces films-là, et finalement, malgré le fait qu'elle soit plus ou moins tête d'affiche, elle n'arrive pas à amener les spectateurs en salle. Ce que je trouve intéressant, parce qu'en fait, il n'y a personne aujourd'hui qui arrive à faire ça, et elle particulièrement, on prend plein la gueule sur ce genre de sujet-là, alors que je trouve intéressant justement de la comparer à un autre acteur et à un de ses compatriotes, qui est justement Chris Hemsworth, qui, comme elle, a émergé de Neighbors, comme elle est allée aux États-Unis au début des années 2010 et a plus ou moins réussi à percer grâce à ça, donc lui directement via un film de super-héros avec Thor. Et sauf qu'ils n'ont pas du tout le même suivi de carrière. Chris Hemsworth, c'est la même chose, c'est que passé Marvel, il s'est dit cool, je suis connu, je vais pouvoir faire plein de projets intéressants. Donc il a fait Au cœur de l'océan avec Ron Howard, il a fait Hacker avec Michael Mann, qui pour le coup, Hacker, c'est un méga méga flop, alors que tout le film, qui est très austère, reposé sur lui et sur sa performance et sur le fait qu'il attire les spectateurs en salle. Résultat, c'est un méga four qui a fait que Michael Mann n'a pas tourné pendant un long moment après ça. Et pareil, en fait, Chris Hemsworth, on lui a reproché ça. Et pareil, il y avait eu Men in Black International dans la foulée, tu vois, donc vraiment la suite d'échecs cuisants. Et là où Chris Hemsworth a fait un choix qui est le sien, c'est de dire bon bah je vais sur Netflix, parce que sur Netflix au moins il y a ma tête en miniature, ça rassure les gens, ils ont envie de cliquer, et du coup on fait Tyler Rake et ça cartonne. Margot Robbie fait pas ce choix là en fait. Elle pourrait le faire comme beaucoup d'acteurs le font, tu vois, des Dwayne Johnson, des Ryan Reynolds, qui en fait ne marchent plus suffisamment en salle passé Deadpool et compagnie, et donc ils font Netflix, enfin ils vont sur Netflix parce qu'ils arrivent à vendre un projet à 150 patates et qui est globalement de la grosse merde indigeste, mais ils le font quand même. Alors que elle, tu vois, mine de rien, je trouve que c'est très courageux que malgré ces fours-là, tu sens qu'elle choisit quand même ses rôles et a choisi les cinéastes avec lesquels elle bosse. Et c'est quand même pas rien, je trouve.
Oui, mais en fait, c'est un peu inconfortable pour les acteurs aujourd'hui de sentir que les studios attendent d'eux d'être encore bankable, alors que ça fait des années qu'on le répète maintenant que les acteurs bankable n'existent plus. Et pourtant, on attend quand même d'eux qu'ils le soient encore, alors que c'est très très compliqué aujourd'hui de vendre vraiment un film sur le visage d'un acteur ou d'une actrice. Donc c'est difficile de s'en tirer pour eux. Et ce qui est intéressant avec Margot Robbie, c'est que là, plus ça va, plus elle devient en fait une superstar. Et pourtant, elle a très peu de tête d'affiche, justement. Elle est très peu souvent personnage principal. Elle a très souvent un pendant masculin. Et justement, même dans Barbie, elle n'arrive pas vraiment à avoir le devant de la scène, ce qui est quand même dingue. mais en fait, c'est plus dans les rôles, les films un peu plus indépendants qu'elle a des rôles principaux. Et donc, notamment, sa première fois tête d'affiche, du coup, c'était Moitonia.
Oui, et notamment, c'était son premier film en tête d'affiche. Mais encore plus important, je pense, c'est le premier film qu'elle a produit. Parce que ça, elle l'a dit plusieurs fois à la presse qui l'interrogeait à ce sujet, elle aime être de l'autre côté de la caméra et ça l'intéresse pas en fait de simplement jouer et assurer la promotion, elle a déjà dit plusieurs fois, elle aime s'impliquer à chaque étape du projet. Et on en parlait sur le Loup de Wall Street juste avant, mais quand même, faut imaginer qu'à 22 ans, elle s'est installée dans une pièce avec Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio pour réécrire une des scènes les plus marquantes du film.
Donc celle où DiCaprio se barre avec sa gosse et qu'il prend la bagnole, il pète
la
porte du
garage. Cette scène absolument chaotique, hein, où on est encore dans une énergie très chaotique et dans ce désordre. Normalement, elle avait expliqué que la scène normalement était beaucoup plus lisse, où tout simplement elle marchait dans son bureau, elle lui disait je veux divorcer, et voilà, ça s'arrêtait comme ça. C'était un truc aussi simple que ça, et qu'au final c'est devenu cette scène complètement hallucinante. Donc déjà là, elle avait un pied dès sa toute première expérience à Hollywood, en tout cas côté cinéma, de passer du côté des équipes créatives, certes à un petit niveau, mais encore une fois elle avait 22 ans. est presque une suite logique. À 24 ans, elle monte sa boîte de prod, donc avec son futur mari et deux autres collaborateurs, donc le Ketchup Entertainment. Et elle a plusieurs fois expliqué que cette société de production avait pour but de mettre en avant des histoires sur des femmes, des personnages aimables ou non, mais en tout cas sur des femmes et ou créées par des femmes. Donc vraiment avec cette démarche. Et moi, Tonya, a été la première sortie de le Ketchup Entertainment, qui d'ailleurs était un succès critique avec plusieurs nominations aux Oscars et ouais. Tout ça. Donc il y avait vraiment quelque chose qui s'est passé avec ce film. Et le fait qu'elle soit productrice, évidemment, ça joue comme pour Birds of Prey.
Ouais, enfin, en même temps, je trouve qu'il y a quand même un petit... Enfin, je sais pas, il y a un truc... Il y a un peu le vernis marketing là-dessus, tu vois, parce que typiquement... Pour préparer cette réue, j'ai rattrapé Terminal, dont elle est aussi productrice et qui est sortie la même année que Aitonia d'ailleurs. Et c'est un truc qui a vraiment été mis sous le tapis, hein, parce qu'il a fait plusieurs festivals et après tout le monde a dit c'est trop de la merde, on va pas le sortir en salle et ça va sortir en direct ou vidéo.
Ouais, il y a une sortie très très limitée en salle avant le passage en VOD.
Qui est une espèce
aux
de sous John Wick que t'aurais mixé à du Tarantino où elle interprète une sorte de tueuse à gages. Dans une sorte de gare où elle rencontre des mecs et elle doit amener des tueurs à gages à se tuer entre eux. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est le néant abyssal d'un point de vue narratif, avec des dialogues qui se croient malins à justement en fait la sexualiser à donf et à dire des trucs super vulgaires. Et tu sens que c'est, bah oui, parce que les personnages masculins sont tous des porcs et du coup elle va se venger parce qu'elle va tous les buter. Tu fais ok, mais ça n'empêche que tous les personnages masculins parlent de son cul et lui disent petite poupée ou mon sucre en orge là. Et tu fais mais quoi, film, qu'est-ce que tu fais en fait? Et tu sens qu'il y a ce truc là où pareil elle revient à ce truc de la femme fatale hitchcockienne, et puis alors là avec ce truc incroyable, ce twist fantastique qui est que elles sont jumelles en fait, il y a deux Margot Robbie pour le prix d'une déguisée en infirmière à la fin du film. Tu fais mais pitié,
en infirmière sexy
qui fait une lobotomie sur le méchant du film. Tu fais mais what the fuck, s'il vous plaît, stop,
en fait c'est
arrêtez.
La scène inversée de Sucker Punch.
Ah totalement. Ah, j'y avais pas pensé comme ça. C'est pas une bonne chose.
Oh, waouh!
Waouh! C'est pas une bonne chose du tout. Avec quand même ce dernier plan où elle part, du coup, avec l'impair rouge, tu vois, de femme fatale à deux, en rythme avec leurs talons et leur bruit de pas.
Et la caméra filme les talons comme ça pendant qu'elle marche, avec vraiment la démarche de mannequin, genre un pied bien devant l'autre.
Mais tu vois, c'est marrant, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, où je trouve qu'il y a vraiment ce paradoxe pour le coup entre la théorie et elle, ce qu'elle veut en faire, comme ce que tu vois dans Diversion ou même dans Suicide Squad, je pense, par rapport à ce qu'elle espérait du personnage. Et ce qui est, enfin, la concrétisation et le male gaze mais dégueulasse de la caméra, enfin, qui pour le coup passe vraiment pas. Et elle, tu sens qu'elle se donne à fond, hein. Ça, j'en doute pas une seule seconde dans le film. Tu vois, il y a même des moments où je sens, par exemple, face au personnage qui est joué par Simon Pegg, qui joue une sorte de prof qui est sur le point de crever d'une maladie, d'un cancer, il y a un truc assez rigolo qui se passe. Enfin, tu sens que dans les dialogues, il y a quand même une dynamique, comme lui est assez drôle, qu'il a un bon tempo aussi. Ensemble, ça marche bien. Mais alors, le reste du film est vraiment une torture du début à la fin. Mais je ne doute pas, tu vois, qu'en tant que productrice, ça voulait insuffler à ce projet-là un truc particulier.
Bah, de toute façon, là, elle est pas encore confirmée comme productrice, vu que. Oui, d'accord, moi, Tonya a été un succès critique, mais par contre, ça n'a pas été un succès commercial. De toute façon, ça n'avait pas vocation à être un succès commercial. Et tout ce qu'elle a enchaîné derrière, jusqu'à Barbie, ça a été des flops commerciaux. Bon, bah voilà, Terminal.
Oui, Birds of Prey, hein, enfin, qui malheureusement.
Voilà. Était et Birds of Prey, alors que pourtant, elle était totalement investie sur le projet. Elle était dessus depuis le début du développement, donc c'est-à-dire 5 ans avant la sortie du film. C'est elle qui a initié l'idée de mettre en scène donc, le groupe des Birds of Prey. Parce que normalement, l'idée première, c'était de faire un film sur les sirènes de Gotham. Donc en fait, un trio d'anti-héroïnes avec Harley Quinn, Poison Ivy et Catwoman. Et Margot Robbie s'est dit. Ouais, bon, là, on va en fait proposer un film avec trois des anti-héroïnes les plus connues de l'univers d'ici, voire du monde des super-héros. Du coup, en fait, ce serait carrément plus intéressant de mettre sous les projecteurs des personnages féminins qui sont moins connus, mais qui sont quand même super cool.
Vu qu'ils vont pas trop lui voler la vedette, du coup, a priori.
Mais voilà, ça a été un échec, vu que bah, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent justifier cet échec. Donc, seulement, il y a le moment de la sortie, au tout début de la pandémie, je crois, un des pires moments où tu pouvais sortir un film. Il y a aussi le fait que c'était le premier film R-rated, donc interdit aux moins de 17 ans non accompagnés d'un adulte, donc ce qui prive quand même une certaine part de public, surtout pour un film de super-héros.
Ce qui n'était pas totalement justifié d'ailleurs, mais bref.
Voilà, c'est justifié par deux scènes.
Voilà, enfin, par rapport à The Suicide Squad de James Gunn, là tu te dis, ah oui, là ça mérite son rated R, mais...
Et en plus, voilà, un film avec une équipe féminine de personnages pas très connus. Donc, ouais. Le film, en fait, c'était un peu un film kamikaze.
Puis qui est sorti juste avant le Covid, hein, si je me souviens aussi, donc ça n'a pas aidé.
Ça l'a torpillé.
Oui, ça l'a complètement torpillé. Mais c'est... Enfin, je m'interroge là-dessus parce que finalement, tu vois l'impact qu'elle a prise en tant que productrice, c'est super intéressant. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui émerge de plus en plus auprès des acteurs et surtout des actrices. Mais finalement, je sais pas trop à qui on peut comparer Margot Robbie sur ce plan-là, parce que c'est quand même assez intéressant.
Bah finalement, il y a pas mal d'actrices comme ça qui ont été connues pour leur plastique, on va dire, alors pas que bien sûr, mais qui ont un talent certain, mais qui aussi du coup dans l'ombre travaillent en tant que productrice, même si c'est quelque chose qu'on met beaucoup moins sur le devant de la scène, parce que par exemple le travail de certains acteurs comme DiCaprio justement en tant que producteur, on en parle beaucoup plus, mais des actrices comme Nathalie Portman par exemple, ou Charlize Theron aussi qu'on mentionnait plus tôt, sont productrices.
Pour le coup, Charlize Theron, je pense que c'est même ce qui se rapproche le plus de ça, parce que elle cherche beaucoup aussi cette idée de film féminin réalisé par des femmes, et notamment beaucoup dans le domaine maintenant du cinéma d'action, où elle essaie de se donner une place importante. Alors le problème, c'est que ça donne The Old Guard sur Netflix, donc c'est pas génial, mais tu vois qu'il y a une tentative, et je pense que Margot Robbie tend pas mal vers ce truc-là aussi, et ce qu'on disait plutôt, de prendre potentiellement des stéréotypes féminins, avec en plus des actrices qui ont une plastique qui irait bien avec ça, pour au final en faire totalement autre chose, ou essayer de désamorcer cette idée-là pour t'amener dans une autre direction.
Non, c'est vrai que c'est un modèle qu'on voit, genre juste pour donner un dernier exemple, mais celle aussi qui est en train d'emprunter ce chemin et très tôt, c'est Millie Bobby Brown. Mmh. Au final, on pense qu'on veut de l'actrice et dans quoi elle a joué, mais aujourd'hui, c'est une des plus jeunes productrices d'Hollywood qui est sur Netflix, qui certes ne produit pas des grands trucs, on peut pas dire que Enola Holmes 2 ce soit un chef-d'œuvre, mais en tout cas qui a vraiment à cœur de ne plus être simplement genre la tête d'affiche que tu trimbales un peu partout en tournée promo, quoi.
Oui, et puis il y a tellement de jeunes actrices comme elle qui auraient pu se contenter de Stranger Things et se dire je prends mon chèque et je m'en vais, ou je vais faire d'autres trucs après, mais elle s'est très vite impliquée effectivement, et elle a pris un pouvoir de fou à Hollywood très vite. Enfin, je pense qu'il y a très peu de cas comme elle. Elle a juste sauté sur l'occasion et elle a pris, quoi.
Et c'est pour ça aussi que Barbie, j'ai vraiment envie d'y voir un parallèle, surtout ce passage très beau où Barbie dit à sa créatrice, moi j'ai plus envie d'être simplement celle qu'on fabrique et avec qui on joue. Moi aussi j'ai envie d'être celle qui imagine. Et j'ai vraiment eu envie de l'interpréter comme Margot Robbie qui dit, j'ai pas simplement envie d'être une actrice, j'ai aussi envie d'être celle qui imagine, qui crée, qui a un pouvoir de création, et donc en fait qui parle de son statut de productrice, parce que ça aussi, le fait qu'elle n'était pas forcément pas respectée, mais en tout cas pas prise au sérieux, et que pendant un temps... Elle racontait aussi que beaucoup de personnes pensaient que son statut de productrice, c'était un peu un titre honorifique, comme peuvent avoir certains acteurs ou actrices en tant que producteurs ou productrices exécutives sur des projets. Alors que non, elle vient à toutes les réunions, ce qui d'ailleurs a surpris pas mal de monde. C'est elle qui gère les questions de thunes, même si pour certaines personnes aussi, il y a ce réflexe de se tourner vers ses collègues masculins qui tiennent le Kitschap Entertainment et qui, eux, sont là... Ouais, non, mais les questions de thunes, c'est un peu plus Margot Robbie qui gère, donc va plutôt voir Margot et pas moi.
Là aussi, où on voit qu'il y a vraiment une démarche de création et d'implication artistique dans son rôle de productrice, c'est qu'elle en vient même à produire des films, ou en tout cas au moins un film dans lequel elle apparaît pas. Et ça fait un peu penser aussi au parcours de Reese Witherspoon, qui par exemple était productrice d'un film comme Gone Girl, dans lequel elle ne se réserve pas de rôle. Donc ça arrive aussi qu'elle soit exclusivement productrice, et donc c'est ce qu'avait fait Margot Robbie sur Promising Young Woman, normalement, notamment.
Et c'est encore mieux parce que de base, elle était censée jouer la protagoniste. Et au final, Carey Mulligan donc, a passé l'audition. Et Margot Robbie, très tôt, s'est dit « C'est elle, en fait. Elle apportera plus de gravité au personnage que ce que moi, je serais capable de faire. Donc, aucun souci à ce que je lui laisse la place dans la lumière, entre guillemets, et que moi, je reste la femme de l'ombre. »
Et du coup, il y a une vraie démarche, que de aussi bien pour elle que pour les autres productrices qu'on a citées, de réellement s'engager à faire des films dans lesquels les personnages féminins seront de premier plan et intéressants et plus fouillés que ce qu'on a pu leur donner comme simple actrice, justement.
Oui, parce que tu parlais notamment aussi de l'envie, via moi, Tonya, de parler de thématiques très féministes et de la question aussi du rapport à l'homme pour un personnage féminin qui est en proie à l'emprise, à des violences conjugales et à ce genre de choses. Et là, dans Promising Young Woman, t'as quand même ce postulat assez génial de cette femme qui, du coup, se transforme en... pas en serial killeuse, mais enfin, du coup, qui désamorce ce truc-là, mais qui va vers des mecs qui essayent d'agresser sexuellement des femmes, notamment dans les bars. Et le film va dans une direction très étonnante et pioche dans divers genres, et pour le coup je pense là a réussi à faire ce qu'elle voulait sans doute faire avec des terminales et des trucs comme ça, tu vois, mais d'arriver vraiment à partir d'un genre spécifique thriller, film d'horreur, et en faire une satire féministe super grinçante et franchement assez, enfin, douloureuse à regarder.
Oui, mais malheureusement, Promising Young Woman, c'est un film génial, mais qui n'a pas non plus été le carton commercial, parce que là encore, c'était une petite production, ça n'avait pas vocation à être un grand succès. Là où Barbie, ça peut vraiment être l'alignement d'étoiles, c'est-à-dire que non seulement elle confirme son statut d'actrice, parce que je la trouve vraiment très bien dans le film, peut-être à quelques détails près, mais c'est vraiment des détails et ça ne sert à rien de s'engouffrer là-dedans, mais aussi en tant que productrice, en mode, voilà. Là, je les ai ramenés les thunes, donc maintenant vous me prenez au sérieux, s'il vous plaît.
Ah, bah oui, à 164 millions de dollars sur le sol américain là, pour son premier week-end.
Enfin, pas en baissant la tête parce qu'il est plus petit qu'elle, mais. Elle regarde Tom Cruise dans les yeux là et elle peut lui dire
la balle perdue envers notre scientologue préféré, mais.
Je te donne 2-3 leçons de merch, hein, parce que.
Non, mais c'est même hallucinant. Là. C'est un des plus gros week-ends c'est l'un des plus gros démarrages depuis très longtemps sur le sol américain depuis le Covid. Et en plus, comme il y a Oppenheimer derrière qui lui aussi a plutôt bien démarré, ensemble, ils font l'un des meilleurs week-ends depuis très très longtemps. Donc Barbie est un succès hallucinant. Et c'est sûr qu'il repose autant sur l'excitation que le projet avait depuis très longtemps. Parce que ça, à la base, c'était donc Anne Hathaway qui était raccordée au projet, puis Amy Schumer, comme tu le disais. Et puis quand elle s'est investie, c'est vraiment elle investie. C'est notamment elle qui a amené aussi Greta Gerwig
Elle a démarché Mattel, puisque du coup, quand le projet était au point mort, c'est elle qui l'a eu entre les mains et qui ensuite est allée voir la Warner et qui leur a dit mais vous vous rendez pas compte, genre Barbie c'est le nom le plus connu après Coca-Cola, genre c'est sûr que ça va cartonner.
Pas sûr de ça, mais ok.
Mais en tout cas, elle avait ce truc de j'ai du flair, faites-moi confiance, donnez-nous les thunes nécessaires, genre vraiment là aussi elle a eu son mot à dire et elle s'est impliquée dans le budget en réclamant plus de thunes et en disant clairement là c'est un blockbuster que vous avez, donc donnez-nous les thunes pour le concrétiser.
Et là du coup je crois elle est à plus de 12 millions de cachets, elle, ce qui en fait à l'heure actuelle je crois l'actrice la mieux payée d'Hollywood. Ouais, je pense qu'elle est très éloignée de ses collègues masculins qui récoltent bien plus chaque année, mais c'est quand même, déjà c'est un truc qui va dans la bonne direction.
Oui, c'est-à-dire que là pour l'instant elle touche 12,5 millions, tout le monde était très content de dire que c'est exactement le même cachet que Ryan Gosling. Bon, t'as envie de te dire oui mais Ryan Gosling est que acteur dans cette entreprise, mais bon bref, après sûrement qu'elle a négocié un pourcentage sur le box-office. On n'a pas les détails du contrat, mais c'est sûr qu'on tend un petit peu à ce rééquilibrage de c'est une femme qui pèse, notamment une femme d'affaires qui pèse à Hollywood.
Et comme tu le disais, moi je trouve que le côté méta que de toute façon le film a en général, et moi c'est, je trouve, l'une des réussites de ce que Greta Gerwig a abordé avec ce film-là, je trouve que pour elle, pour Margot Robbie, c'est une vitrine géniale parce qu'effectivement, tu as ce truc fantasmatique qu'elle apporte à la caméra et qu'elle déconstruit au fur et à mesure dans le personnage. Et pour le coup, je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais moi je trouve qu'elle apporte une émotion déjà dans le film que j'attendais pas forcément derrière l'aspect comique que le film amène, notamment dans l'une des premières scènes dans le monde réel où Barbie découvre finalement ce que sont les émotions et la complexité des émotions qu'on peut ressentir. Et je trouve même qu'il y a un truc très fort, je ne suis pas une femme, spoilers, mais je trouve qu'il y a ce truc où quand elle dit en débarquant dans le monde réel, il y a ce regard des hommes, je me sens bizarre et j'arrive pas à mettre les mots dessus, et je me dis mais il y a tellement de jeunes femmes qui ont expérimenté ça, enfin toutes d'ailleurs je pense ont expérimenté ça, qu'elle arrive très bien à avoir ce truc du je n'arrive pas à mettre des mots sur ce que je ressens, mais elle le joue très bien.
Ces thématiques là donc sur le regard masculin, le harcèlement sexuel et tout ça, c'était aussi au cœur du film Scandale d'ailleurs, où elle a partagé l'affiche avec Charlize Theron, donc quand même assez drôle vu qu'on disait sur les thématiques très féminines de leur film. Et elle a avoué, bon, est-ce que ça fait partie du storytelling des arguments bullshit promo, on sait pas, mais que avant véritablement de bosser sur ce scénario et de le jouer, elle ne connaissait pas la définition de harcèlement sexuel. C'est-à-dire que ce que c'était, elle le savait, mais elle avait pas mis ces mots-là dessus, avec une définition véritablement claire. Donc au final, ce qu'expérimente Barbie, c'est peut-être ce qu'elle-même a expérimenté à Hollywood.
Non, oui, alors après, moi j'ai beau ne pas du tout aimer le film, effectivement, je trouve que cette lecture-là, elle est très intéressante. Après, je trouve ça dommage, effectivement, que le personnage féminin reste essentiellement la caution émotion du film, et justement de cette découverte des sentiments et des oppressions, tandis que les personnages masculins ont aussi le droit d'être drôles et de se réapproprier l'humour du film et de prendre aussi un peu le devant de la scène par la même occasion. Mais j'avoue que cette lecture-là, elle est intéressante. Et enfin, Margot Robbie, productrice, ça m'étonne pas du tout qu'elle ait voulu à la fois jouer et porter ce projet. Même si, moi, il est pas ce que j'espérais, ça s'insère de manière très logique, en fait, dans son parcours.
Et puis là, on peut quand même, effectivement, amener un élément critique. C'est que, forcément, en tant que productrice, je pense qu'elle a dû un peu peser le pour et le contre sur ce qui pouvait être mis dans le film ou pas. Parce qu'au final, le film est quand même cette satire féministe et antipatriarcale, qui est qu'on peut trouver très évidente, qui enfonce un peu des portes ouvertes. Et en même temps, il y a aussi ce truc-là où il fallait un peu voir ce que Mattel acceptait ou pas dans cette critique-là et dans cette autocritique de la figure de Barbie, et où là, peut-être que le film pêche un petit peu.
Oui, enfin, pour le coup, moi, évidemment, je trouve que ça, comment dire, son message antipatriarcal n'est vraiment que de façade et qu'il est absolument pas ancré dans la structure du film. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est justement ce que ça dit aussi de l'engagement de Margot Robbie, qui est toujours un petit peu en train. On a l'impression qu'elle tempère en fait dans les choix qu'elle fait, qui sont engagés mais pas trop. Et on a l'impression du coup qu'elle ménage un peu la chèvre et le chou de manière à réussir à se faire une place et en fait à d'abord intégrer le système pour mieux le dynamiter ensuite. Donc d'abord y aller doucement en fait pour que le grand public accepte ces messages féministes.
C'est vrai qu'il y a quelque chose que je trouve assez fascinant slash inquiétant, je sais pas trop comment prendre le truc, mais en règle générale, malheureusement, un discours féministe outrancier, ça va susciter du rejet. Et que ce soit dans un film ou que ce soit une personnalité qui porte ces discours-là, et en fait, je pense principalement à Brie Larson, en fait, le bashing qu'elle avait subi.
La pauvre.
Sur Captain Marvel, où voilà, en conférence de presse, elle parlait justement de l'omniprésence des hommes hétérosexuel blanc d'un certain âge qui plus est dans les milieux critiques, et que forcément ça posait quelques questions de perception des messages féministes. Voilà, au final elle l'a peut-être dit de façon un peu provoque, mais bon, elle a rien dit je trouve qu'elle a rien dit de choquant, enfin elle a pas réinventé l'eau chaude en disant ça, et pourtant ça s'est suivi d'un bashing qui était quand même assez hard, et j'ai vraiment pas l'impression que Margot Robbie, qui pourtant porte les mêmes thématiques, ait déjà été victime de ce même bashing.
Bah, tu vois, est-ce que c'est pas parce que justement elle a eu l'intelligence, c'est pas le terme que je voudrais, mais peut-être
la prudence
de se dire je me tais, parce que tu vois, justement en parlant de ça, notamment de la réception critique, bah là tu vois, on est les premiers à avoir bâché certains des films dans lesquels elle a joué par rapport à la réception, enfin par rapport au parallèle entre ce qu'elle veut y amener et la manière qu'a la caméra de la filmer. Mais par exemple, tu vois, sur Diversion, je trouve que c'est un cas où la critique à l'époque, et qu'elle soit américaine ou française, a été mais assassine envers elle. Plus que, enfin tu vois, Will Smith, on disait juste bon bah il est éteint, il est nul, mais en fait elle du coup elle devenait, tu vois, l'objet qu'il fallait assassiner parce que le film était malhonnête à travers elle. Et notamment, enfin j'avais noté 2-3 trucs, tu vois, mais le Monde disait qu'elle ne servait que de poule de luxe, alors que
en même temps c'est ce que dit le scénario.
Alors c'est ce que dit le scénario, mais est-ce que tu vois, la critique est obligée elle-même d'utiliser ce genre de terme là, tu vois? Et c'est même Chronicart qui est allé plus loin encore en la traitant non seulement de bonasse de service, mais en disant l'idée de Diversion, c'est de s'en remettre à la toute puissance d'une paire de seins, tu vois, ce que je trouve quand même un peu bâtard, quoi. Et
surtout que le film passe son temps à tailler sa poitrine en disant qu'elle est trop plate.
C'est vrai.
Tu vois, et finalement elle, alors à la quelques années plus tard, rebondit un peu là-dessus en disant que c'était un peu difficile et qu'elle espérait des critiques plus constructives que ça, mais en même temps elle n'y avait pas tellement réagi à l'époque, là où je pense que Brie Larson serait rentrée dans l'art tout de suite des critiques pour ce genre de propos.
Oui, c'est vrai qu'elle l'a déjà ouvert notamment une fois où elle avait expliqué que être jugée sur son physique, c'était une partie de son métier de laquelle elle pouvait pas se défaire malheureusement, mais que d'un autre côté, être jugée uniquement sur l'aspect esthétique de sa personne, c'est quelque chose qui la rend folle.
Mais alors du coup, ce qui est intéressant de se poser comme question maintenant, c'est de se demander à quel point elle va redéfinir en fait le statut de star, justement propre aux stars féminines de cet âge-là et de ce type de plastique. Elle est en train d'assumer donc un rôle de productrice de plus en plus, qui avance des choix engagés et qui petit à petit se fait de plus en plus une place pour oser porter des messages forts. Est-ce qu'elle est en train, comme avait pu le faire Natalie Portman donc à une époque, comme on le disait, de redéfinir un statut de star à une époque où les stars américaines sont plus tellement bankable mais doivent jouer sur plusieurs tableaux pour réussir à avoir vraiment du pouvoir au sein de l'industrie?
Je pense que oui, et mine de rien, le succès là immense de Barbie prouve que à l'attester avec d'autres films, tu vois, même des Babylone ou des choses comme ça, qui restent en plus, tu vois, des budgets qu'on ne voit plus trop à Hollywood, tu vois, des films qui approchent de la barre des 100 millions, mais qui restent plus ou moins en dessous, mais qui, du coup, s'ils sont des flops, sont quand même des grosses pertes financières, mais qui sont pas des énormes machines à 200 millions non plus, et qui doivent trouver cet équilibre-là. Et là, en fait, le succès de Barbie tente à rassurer face aux flops énormes, parfois de très très grosses machines, comme certains des blockbusters de cet été, comme Indiana Jones ou The Flash, de se dire que c'est peut-être finalement cette voie-là qu'il faut quand même emprunter, et que même si elle a pu se planter par le passé, finalement, peut-être que la hype qu'elle a réussi à créer autour de Barbie, elle a eu raison de croire dans ce pari risqué, et qu'il y a peut-être d'autres films comme ça qui peuvent émerger à l'avenir.
Au final, c'est vrai qu'avec Margot Robbie, que ce soit en tant qu'actrice ou que productrice, on sent cette volonté de rébellion, ce souffle rebelle, mais c'est pas de la révolte non plus. On reste quand même dans un équilibre qui est un peu plus tiède, j'ai envie de dire.
Oui, pour finalement réussir à s'assurer toujours une aura grand public et pour pouvoir faire passer des messages accessibles, on va dire, et qui choquent pas trop peut-être l'essentiel du public pour réussir à conserver ce pouvoir et à le développer si possible. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'elle va faire par la suite, quoi.
Ouais, à voir si c'est un truc de transition ou si là, le coup de Barbie était un one-shot. Parce que bon, c'est vrai que l'un des projets sur lesquels elle est techniquement encore rattachée, même si le projet n'est pas du tout prévu pour le moment, c'était un potentiel spin-off de Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp, au moment où en plus vraiment c'était mort de chez mort pour Johnny Depp en phase 1, ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui d'ailleurs. Mais du coup, il voulait rebooter Pirates des Caraïbes en version féminine, et c'était elle qui très rapidement était en tête d'affiche là-dessus, ce qui est assez étonnant. Alors franchement, je lui souhaite de ne pas le faire, parce que je pense que c'est une très mauvaise idée,
oui.
Et à vous mieux que ça, clairement. Donc je lui souhaite de faire plutôt des films peut-être plus proches de Barbie, ou des trucs encore plus indépendants qui peut-être, maintenant qu'il y a le succès de Barbie, peuvent justement émerger peut-être plus facilement.
Ouais, bon, moi j'ai même envie qu'elle parte sur des personnages même qui ne font pas que parodier le stéréotype qu'elle incarne, mais qui même s'en fichent davantage, comme elle avait fait dans Mary Stuart, comme elle avait fait dans Moitonia. Vraiment se libérer de son image, c'est bien d'en jouer deux minutes, mais au bout d'un moment, il faut aussi dépasser ça, quoi.
Bah, et tu vois, c'est marrant parce qu'on en a pas tellement parlé, mais je trouve que dans Barbie, il y a un truc vraiment passionnant qu'elle avait commencé à développer par le passé, mais avec les bons cinéastes pour ça. Moi, c'est un côté vraiment cartoonesque. C'est-à-dire que dans Barbie, c'est là, effectivement, dans la façon ultra caricaturale qu'a le personnage d'être méga joyeux au début, de faire, de bouger les mains tout le temps et ce genre de choses-là. Et en même temps, tu vois que cette énergie-là que tu avais aussi dans Birds of Prey, avec le côté il y a des dessins à l'écran, à parasite l'image, ce genre de choses-là, ça revenait, et sous l'égide d'un bon cinéaste, et je pense particulièrement à James Gunn, enfin c'est quand même incroyable que dans The Suicide Squad, il lui donne à elle seule une séquence où elle a l'occasion de briller, qui est cette séquence d'évasion de prison où elle tue tout le monde de manière ultra sanglante, et où il fait péter des fleurs derrière elle, enfin, et qu'en fait ça marche parce que c'est elle à ce moment-là, et que dans sa manière de crier, dans sa manière de jouer la séquence, dans sa manière de sourire, dans sa manière de vraiment jouer la folie d'Harley Quinn de manière totalement cartoonesque, alors que t'es dans un film live, du coup cette émergence, ce parasitage de l'image vers de l'animation quasi fonctionne extrêmement bien avec elle, et pour le coup c'est vraiment une partie de son jeu que j'ai envie de l'avoir développé. Comme d'ailleurs, tu vois, dans Barbie, Ryan Gosling, on l'a souvent dit, mais de le voir dans des rôles comiques, bien loin du côté mutique de Drive et tout ça, depuis The Nice Guys, et là avec Barbie, ça confirme qu'il a un immense talent là-dedans, et on a encore plus envie de le voir faire ça. Et bah, moi, Margot Robbie, j'ai vraiment encore plus envie de la voir faire ce type de personnage-là, et vraiment de jouer aussi justement avec son corps, voire de le déformer, pas forcément de l'enlaidir, mais d'y jouer d'une manière très, très cartoonesque.
Tu veux désarticuler Margot Robbie.
Désarticuler Margot Robbie.
Comme une Barbie.
Bon, bah, c'est pas mal tout ça. Je pense que, franchement, là, on a pas mal de matière et on a pas mal fait le tour. Et en tout cas, je pense que ça fait plein d'idées d'articles. Mais bah, franchement, je me dis surtout que ça ferait un super sujet de podcast le jour où Écran Large se décidera d'en faire un.
Ouais, c'est clair.
Et si un jour on fait ce podcast, bah, faudra juste rappeler aux auditeurs de s'abonner, de partager le podcast, de mettre 5 étoiles sur leur appli d'écoute et bah, de mettre un commentaire. Et on pourra surtout, au passage, remercier les gens de nous soutenir parce que ça reste le plus important.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.